potes, venez chez moi, y'a papa. Aidez les potes, y'a papa, y'a papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, lidi gata, pou zizi, mimi papa, y'a papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piquez dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la, voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la, voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que je trotte avec Yana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu dans la causerie. Donc la causerie radiocanu@gmail.com pour le mail. Et sinon, si vous voulez le retrouver sur le site, c'est blogs.radiocanu.org/la causerie. Et sur le site de Radio Canu, les blogs de Radio Canu, la causerie.
Oh, c'était bien dit.
Ah ouais. Bonsoir. Merci. Jonathan.
Bonsoir. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Fab à la technique.
Salut.
Bah ouais.
Tout le monde va bien ?
Bah oui, ça va bien.
Et on a un invité en plus.
C'est ça.
Oui, bonjour. Moi, c'est Guillaume.
Il faut parler plus près de ton micro.
Ah, pardon. Donc, moi, c'est toujours Guillaume.
T'as pas changé.
Toi non plus, tu n'as pas changé. Et donc. Non, sérieux, c'était une soirée de musique pas terrible ce soir, c'est ça ?
Ouais, c'est vrai que t'as eu pas mal de refrains de merde dans la tête.
Et puis donc, on va quand même saluer Clara, Emma et Nadège qui ne seront pas avec nous ce soir parce qu'elles ont déserté. Voilà, elles ont dit non, on ne viendra pas. Voilà, on peut les comprendre.
C'est vrai,
évidemment.
Voilà. Et puis, j'ai oublié de rappeler que le concours pour le générique est toujours lancé. Donc si toi tu as une envie de générique et tu as envie de nous offrir un générique pour notre 100e, et ce soir c'est la 92e, donc il te reste 8 émissions, eh bien on l'attend avec plaisir sur
Radio Canu. Ah non, pardon, la causerie radiocanu@gmail.com.
Presque, c'était pas ça.
blogs.radiocanu.org/.
Non plus.
Bon,
la causerie canu@gmail.com, tout attaché. Pas radio, il n'y a pas radio.
Ah.
Voilà.
T'as dit radio avant.
Bah oui.
J'ai pas fait gaffe.
Ah bah voilà,
bravo.
Alors, on le redit bien, la causerie canu@gmail.com. Et donc, il vous reste 8 émissions.
Voilà, offrez-nous un générique et vous pourrez venir nous faire un petit coucou, tiens, pour nous l'offrir, ça nous fera plaisir.
Ouais, en fait, vous faites tout et on fait rien, mais on vous reçoit, bien évidemment.
On a des autocollants toujours.
Ah, si. On parle d'une vieille foire de merde.
Ah ouais. Attends, pour un générique, 3 autocollants.
Bon, et ben je crois que ben on va attaquer cette nouvelle causerie, et c'est Fab qui commence à nous parler en nous parlant de sexisme, je crois.
Ouais, sexisme au travail. Bah c'est le 8 mars hein, et comme tous les commerçants vous le disent, c'est la journée de la femme, mais en fait pas du tout. C'est la journée des droits de la femme, voilà. Et oui, parce qu'on enlève le des droits, parce que bon, c'est un jour par an, donc on va quand même pas leur donner des droits en plus ce jour-là. Et en fait, voilà, l'idée, c'est quand même de rappeler que ce 8 mars n'est pas juste une journée pour faire plaisir aux vendeurs de roses et autres petits machos qui auraient eu l'idée d'offrir des roses ce matin à leur compagne, mais bien de rappeler que l'égalité homme-femme n'est toujours pas d'actualité, et ce, partout dans le monde, hein, parce que ne nous mentons pas, il n'y a pas un seul endroit dans le monde où l'égalité homme-femme existe. Une fois que ça c'est dit, je vous parle d'un sujet plus particulier, qui est le sexisme au travail. Alors j'ai pris cet angle-là, c'est mon côté syndicaliste de base, et je me suis dit que ça valait le coup d'en parler.
C'est pas grave, on t'en tient prêt.
Non, mais c'est surtout que c'est un sujet dont on parle assez peu, et d'ailleurs la preuve étant, c'est qu'en fait c'est un rapport du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle qui a été déterré, et qui date de 2013 en fait, et qui a été déterré par Marisol Touraine. Et c'est assez drôle parce qu'en fait ce rapport, il avait été commandé pour doser où en était l'égalité homme-femme dans... Non, ben ne ris pas tout de suite, pas sur un sujet aussi.
Non, je me reprends.
Mais je sais, c'est parce que je m'étais trompé.
C'est bon.
J'avais pas dit déterré, j'avais dit un autre mot bizarre. Et que donc, du coup, je disais, ce rapport, en fait, il avait été commandé pour voir où en était le fameux plan égalité homme-femme dans le milieu professionnel qui avait été lancé, si ma mémoire est bonne, en 2009. Donc vous voyez, 2009-2013, 4 ans plus tard, où on en est, est-ce qu'on a progressé. Et en fait, bah, il avait été très vite enterré, parce qu'en fait, non seulement ça prouve qu'on n'a pas tellement progressé, voire pas progressé du tout, mais qu'en plus, bah, on n'a pas vraiment mis le doigt là où il fallait, parce qu'on est passé à côté de certains problèmes rencontrés par les femmes dans le monde professionnel. Alors on sait tous que, en moyenne, les femmes sont payées entre 16 et 22% de moins que les hommes à travail égal, et que ça déjà c'est un premier problème, mais ça va au-delà de ça, parce que le sexisme en fait, il se retrouve à trois niveaux. Alors le premier, c'est ce qu'ils appellent le sexisme latent, c'est-à-dire cette espèce de sous-entendu permanent qui fait que quand c'est une femme, on se comporte pas avec elle comme si c'était un homme, c'est-à-dire qu'on fait une vraie différence, notamment dans les façons d'appeler la personne, c'est-à-dire que très souvent, les personnes qui ont répondu au sondage, qui sont toutes des femmes, 15 000 femmes hein, quand même ont répondu, c'était pas un sondage, ouais. C'était une étude plus qu'un sondage, elles disent que généralement on les appelle très souvent ma petite, voilà, ma jolie, ma chérie, ou par leur prénom. C'est-à-dire que même quand elles ne connaissent pas du tout la personne d'en face, très très vite c'est le prénom qui sort, ou dans les réunions on dit voilà monsieur Tartampion, monsieur machin, et on ne dit pas madame ni mademoiselle, on donne le prénom de la personne féminine autour de la table, ou vue comme telle. Et donc du coup, c'est intéressant parce que c'est de voir que cette notion de sexisme, elle s'exprime beaucoup plus largement que simplement dans la rémunération. Même si déjà la rémunération est un vrai problème, ça va au-delà de ça. Parce qu'il y a donc cette idée que le sexisme en entreprise est un peu un sport, et là national, vu que c'est une étude française, et que ça perdure assez longtemps. Donc 80% des femmes salariées, donc dans cette étude, je rappelle, sur 15 000 femmes, hein, c'est pas non plus... c'est 15 000 femmes prises au hasard, hein, c'est-à-dire que le questionnaire a été envoyé un petit peu de façon aléatoire en se basant sur les numéros INSEE, c'est-à-dire le numéro de sécu. Donc voilà, ils ont reçu 15 000 réponses, ce qui est quand même un beau retour. Taux de retour. Donc 80% des femmes salariées sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions qu'elles estiment sexistes, ou qui le sont dans les faits aussi, qui sont prouvées dans les faits. Parce que c'est toujours la notion, c'est ce que souligne l'étude, c'est qu'il y a ce qu'on ressent et il y a ce qui peut être prouvé. Alors justement l'étude, en fait, elle démontre que déjà il y a des choses qu'on ne peut pas prouver, tout simplement parce que la loi ne le prévoit pas. Par exemple, le fait d'être appelé tous les jours mademoiselle... mademoiselle chérie ou mademoiselle jolie, comme ça arrivait à une personne dans l'article que j'ai sous les yeux, c'est pas condamnable parce qu'en fait ça rentre dans le cadre de l'humour, voyez. Par contre ça peut rentrer dans le cadre du harcèlement, mais comme la loi sur le harcèlement est très précise, c'est compliqué de faire admettre que c'est pas un comportement normal. C'est pour ça qu'en fait ils ont mis ça dans la classe ressenti, mais ça veut pas du tout dire que c'est pas vrai, ça veut juste dire que légalement on n'a pas l'outil législatif pour condamner. Donc voilà, ils expliquent que dans cette enquête, qu'en fait, c'est 80% de femmes qui se retrouvent mal à l'aise, en fait, finalement, parce que c'est ça, C'est un énorme outil, instrument d'exclusion des femmes dans la sphère professionnelle. Parce qu'en fait, c'est une façon de leur signifier en général qu'elles ne sont pas à leur place. C'est-à-dire, déjà le fait de ne pas être rémunéré de la même façon, puis surtout le fait d'avoir des blagues toutes les 3 secondes, ou des sous-entendus toutes les 3 secondes, ou d'être un peu minoré, comme on dit à chaque fois, ça joue énormément sur notamment la confiance en soi. C'est-à-dire que 93% des salariés, et ES estiment que ça peut amoindrir leur sentiment d'efficacité, leur sentiment de bien-être dans l'entreprise. Alors, il y a un exemple qui est donné dans l'article. Alors, c'est un article qui vient de l'Est de l'éclair. Hein. J'ai pris vraiment sur Internet, parce que voilà. Il y a un exemple qui dit... je ne l'ai pas sur cette feuille. Mais je vais le faire de tête. Pardon. Donc, il y avait une femme qui disait qu'en fait, elle arrivait tous les matins. Et que tous les matins, en fait, son chef saluait tous ses collaborateurs par leur nom. Donc c'était et qu'elle était, elle, en fait, la N plus 1 de tous ces hommes-là. Ouais. Et qu'en fait, quand il arrivait à elle, il la saluait par son prénom. À elle.
Ouais, salut Sylvie, ma jolie.
Voilà, c'est un petit peu. Et du coup, ça donnait tout de suite à quelque chose qui était assez bizarre parce que son supérieur à elle était appelé monsieur aussi. Mmh. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'était la seule qui avait un prénom dans toute la réunion. Et elle dit que c'était un peu bizarre, parce que du coup, ça amène ce sentiment de différentialisme qui est assez marqué. Et alors ça, c'était pour un exemple chez les cadres. Et il y a aussi l'exemple, en fait, chez les ouvrières, qui explique que là, c'est un double tranchant, parce que non seulement, généralement, la hiérarchie ne vous considère pas de la même façon, c'est-à-dire, comme il disait, il y a un paternalisme assez fort qui se met en place. On vous met la main sur l'épaule, on vous explique la tâche qu'il y a à faire, alors qu'à votre collègue à côté, on va juste lui dire, il faut que tu fasses ça. Mmh. Là, on va vous parler un peu plus lentement, vous mettre la main sur l'épaule, vous dire, mais tu vas y arriver? Ou t'es sûr que tu vas pouvoir faire ça? Alors, vous êtes autant qualifié que votre collègue, mais enfin, bon, on sait jamais. Comme vous êtes une femme. Et il y a ça. Et puis, il y a aussi ce qu'elle disait, l'humour entre collègues. Et en fait, elle disait, l'humour entre collègues, c'est très vite lourd. Mmh. C'est-à-dire, c'est la fameuse blague qu'on fait tous les jours, ou tous les deux jours, du genre, ah, tiens, t'as changé de coupe de cheveux, ah, bah oui, ou t'es passé à côté d'un. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est la blague où, pour bien souligner qu'on a remarqué que vous étiez une femme et vous étiez dans la pièce, surtout quand il y a 10 hommes et que vous êtes la seule femme. Et donc, elle disait qu'en fait, au final, c'est une sorte de double pression qu'il y a dans l'entreprise et qui n'est pas qu'une pression managériale. Je voulais souligner parce que on a des fois l'image un petit peu schématique de dire tout vient du manager. En fait, non, ça vient aussi de ses collègues, ça vient aussi de la façon dont on vous parle, ça vient aussi, voilà. Il y avait des tas d'autres exemples que j'ai pas sur la feuille là, donc je suis désolé, mais je vais les faire aussi de tête, où on parlait notamment du fait que quand une femme décrochait le téléphone, la personne au téléphone, quand elle est un homme, en général, ne se comporte pas du tout comme si c'était un homme qu'il avait au téléphone. C'est très, très vite un ton très méprisant, voire très hautain, qui se met en place parce que, bon, on se dit, ouais, mais c'est pas forcément quelqu'un de très qualifié qu'on va donner au téléphone, même si vous êtes technicienne ultra qualifiée du truc pour lequel on vous appelle. Ben non, vous êtes une femme, donc vous ne voudriez pas me passer votre patron. C'était la phrase qu'il y avait très souvent. Vous ne voulez pas me passer votre supérieur. Ben voilà. Donc voilà, c'était pour dire que ce rapport est quand même intéressant. Parce que bon, 50% des femmes sont aussi soumises tous les jours, et c'est bien dit tous les jours, à une blague sexiste. C'est assez énorme quand même. Et que, en fait, 21% des personnes interrogées dans cette enquête, c'est donc des femmes qui étaient interrogées, estiment qu'elles sont plutôt d'accord pour dire que dans l'idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants. Mmh. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intériorisation du fait de ne pas être à sa place. Alors c'est bien ce qu'ils notent quand même, que c'est en baisse de 12 points depuis 2008 et que c'est plutôt bien parce que ça prouve qu'il y a quand même du travail qui est fait et que c'est pas plus mal. Mais ça montre qu'il y a encore une sorte d'intériorisation de cette infériorisation et qu'on dit, bah, finalement, c'est normal qu'on nous voit pas comme les autres parce que voilà. Et que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et c'est pas quelque chose de simple. Alors moi, je voulais parler de ça parce que je voulais juste souligner qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les syndicats, en général, prennent plutôt pas à la légère et plutôt à bras le corps. Mais qui a un gros problème, c'est que les syndicats sont encore majoritairement masculins. Donc, je fais un appel. c'est un réel problème. C'est qu'aujourd'hui, on a ce souci-là en interne des syndicats, c'est de pouvoir prendre cette problématique vraiment à bras le corps. Et moi, je vais juste le dire comme ça à l'antenne, c'est que, ça fait partie aussi que dans nos structures syndicales respectives, il serait bon que l'on n'accepte pas que le copain ou le camarade mec, il puisse tenir des propos sexistes, des propos machistes, ou faire la petite blague à la petite nouvelle qui vient d'arriver, parce que c'est normal, c'est la petite nouvelle et c'est marrant. Non. Enfin, faut lui rappeler que, non. Ça se fait pas, parce que voilà. Et puis je voulais juste finir avec une chose que j'ai lue tout à l'heure, et je trouve que ça résume bien la situation, c'était sur un réseau social que je ne citerai pas, mais où nous avons une page, la causerie.
Oui, c'est vrai.
Bah, bon, c'est Facebook. Et en fait, donc, sur ce réseau social, il y avait une discussion après cet article a été pas mal partagé, il y avait une discussion, il y a un mec qui disait, ouais, mais si on peut même plus dire à une nana qu'elle est jolie, franchement, vous devenez chiantes les féministes. Puis, évidemment, c'est toujours la faute des féministes. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui lui a répondu, mais est-ce que toi, quand on arrive le matin, on te dit, hey, salut Robert, tu vas bien? Parce que, disons, qu'est-ce que t'es mignon aujourd'hui, t'as mis un nouveau costume, en plus tu sens bon. Et là le mec répond, ah bah non, et heureusement. Alors elle lui dit, et pourquoi toi tu le fais tous les matins auprès de ta collègue? Et c'est exactement la question à se poser, c'est-à-dire pourquoi tu te permets de faire quelque chose que tu n'accepterais pas qu'on te fasse tous les matins en te disant, alors Robert, t'as changé de costume? Et t'as mis quoi comme déo aujourd'hui?
mis de la dentelle.
Et c'est drôle parce que justement, quand on renverse le truc, on comprend tout de suite l'absurdité de ces petites choses qui sont installées dans le monde de l'entreprise et qu'on fait très facilement, enfin dans le monde du travail en général, et qu'on fait très facilement, et qui finalement, bah ouais, sont à la longue très lourdes à porter, et notamment pour les principales intéressées. Voilà.
Mais moi, ça me fait penser à... Exactement, justement, quand on retourne les choses, quand il y a un mec tout seul au milieu de nénettes, au boulot, les nénettes, elles vont pas lui faire, justement, « Oh, Robert, t'es mignon aujourd'hui, ah, machin, tout ça, ça ». Ça nous viendrait, enfin, ça vient très rarement à l'esprit. À moins que, bon, ben, il y en ait une qui soit intéressée. Bon, dans ces cas-là, c'est un jeu de séduction, mais...
C'est pas sur la même chose.
C'est pas le même plan. Et c'est assez rare qu'entre nénettes, on en finisse par se dire, ah tiens, il y a qu'un seul mec, on va le faire chier parce que c'est bien cool. Alors que c'est vrai que, voilà, ça sera... Et ça paraît normal.
Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui
c'est
souligne.
C'est ce qui est assez horrible.
Ce qui revient, c'est que ça paraît normal, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que normalement, quand on va travailler, on ne doit pas aller travailler en se disant « Putain, ils vont encore me faire chier, je me généralise toute la journée. » Enfin, je veux dire, c'est pas logique, quoi. Et il y avait plein d'exemples, hein, en dessous de l'article, et de gens qui témoignaient. Et moi, je me rappelle d'un autre exemple, et qui est très parlant, d'une femme qui travaillait dans la mécanique, en fait, qui était dans un garage .S, vous savez, les trucs où on change les pneus et tout. Et à chaque fois, en fait, que quelqu'un amenait sa voiture, quand un homme amenait sa voiture, on lui disait où est le technicien qui va s'occuper de la voiture? Il disait, mais c'est moi. Enfin, elle a été habillée, en plus, elle disait en tenue, quoi. Et mais vous n'êtes pas la secrétaire? Et c'était, elle disait, quasiment tous les hommes qui sortaient de leur voiture lui faisaient cette réflexion-là. Et c'est là qu'on dit, mais il y a un réel problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, c'est pas logique de se dire, elle peut pas faire de la mécanique, quoi. Enfin, on est en 2015 quand même, quoi.
Enfin, voilà. Oui, mais en même temps, je pense que ça dépasse que le cadre du monde du travail. On est de toute façon dans une putain de société patriarcale, et qu'au final, ces réactions-là, tu vas avoir la même des gens qui vont recevoir chez eux une plombière plutôt qu'un plombier, et qui vont dire, ah mais c'est vous qui allez faire ça en fait, et qu'au final, tu le retrouves à tout le temps. Donc effectivement, faut continuer, quoi.
Je suis d'accord avec toi que c'est un problème de société plus large. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est que là, il y a un vrai outil statistique.
Oui.
Et que c'est quand même, après qu'on en est, je crois, à la cinquième ou sixième vague de mesures en entreprise pour l'égalité homme-femme. Et ce, depuis les années 90. Et on se rend bien compte qu'on va pas du tout ni assez vite, ni assez loin, ni qu'en fait, on pointe pas tous les problèmes qui se posent. Parce que faut être très clair, à la machine à café ou dans le point S dont je parlais ou autre, vous avez des supérieurs hiérarchiques qui sont à côté. Gens qui parlent comme ça. Donc, à un moment donné, ils devraient être à même de dire « Attention, ça, dans l'entreprise, on ne doit pas le faire. » Vous voyez, c'est pas que j'aime vraiment l'autorité, hein, clairement pas, mais que on se rend bien compte que ce n'est pas pris du tout en compte, finalement, dans la façon de gérer les gens, quoi. Enfin, voilà.
Et puis, même, je pense que si une femme a le malheur d'ouvrir sa gueule, on va lui dire « Mais oh, ça va, quoi. Tu ne comprends pas la blague, quoi. Tu ne comprends pas l'humour, en fait. »
Mais c'est exactement ça, ce que la plupart, justement, dans les témoignages qu'il y avait, disaient « À chaque fois que je fais une remarque, on me dit « Ah, franchement, t'as pas d'humour. »
Mais
quoi.
T'es une dure à jouir, de toute façon. Mais de toute façon, c'est...
Une peine à jouir, pardon.
Et au final, de toute façon, c'est toujours la même. Et au final, les meufs continuent de vous affirmer et les mecs, foutez-vous en question, quoi. Enfin, faut qu'on se refoute en question parce que si le patriarcat y tient, c'est aussi parce que les mecs continuent d'être des sales putains de machos et phallocrates, quoi. Et que donc.
Ça, c'était bien.
Oui. On va peut-être pouvoir les aider, tous ces pauvres petits garçons.
Mais oui. Mais c'est pour ça que je dis bien, hein, c'est la remise en question. Elle est à tous les niveaux. Et...
Moi, je veux bien les aider en musique, ça permettra de transférer la transition.
Allez, aide-moi en musique.
Juste, pour une fois, je vais annoncer le titre avant. parce que j'ai envie de le dire avant. Alors, on va écouter L7 avec... Oh là, ça va être dur, c'est bien. Fuel.
My.
Fire, voilà. Et pourquoi je mets ça ? Parce que c'est les Riot Girls et qu'il y avait un super reportage hier sur Arte. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez le voir sur Arte plus 7 sur le mouvement des Riot Girls. Et il y a aussi en ce moment des diffusions dans les bibliothèques municipales de Lyon de documentaires autour des Riot Girls. Donc voilà, renseignez-vous, gueulez, hurlez et mettez des coups de pioque. Pas bon ça ?
Si.
Et vous êtes toujours dans la causerie 22-23 le dimanche. Et voilà. Et puis, bah, juste, c'était, je le redis, les L7 avec Fuel My Fire. Et c'était vachement bien et ça fait un bien fou. Voilà. On continue l'émission, yes. Parce que sinon on peut s'arrêter. Hein, c'est comme
bon, à 22h24, on est peut-être un peu court là, non ?
On continue.
On continue, voilà. Alors, moi,
et donc là, on va passer dans la partie service après-vente de la causerie.
Exactement.
Et oui.
On fait des parties 2.
Car Adeline, tu es allée voir la diffusion du documentaire dont on avait reçu les auteurs ici, Birdie Kids.
Voilà, donc c'était le 26 février qu'on recevait Nathalie et François.
Et en plus, donc, je me suis planté, Jonathan, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'étais appelé d'un autre prénom. Voilà.
J'ai même pas réagi. Non, mais c'est
voilà. Mais bon, c'est pas grave, tu m'excuseras et continue.
C'est le côté machiste de la causerie.
Pardon, mais un coup.
Non, donc c'est bien Jonathan le micro qui va vous parler donc du numéro 2 sur Nathalie et François qui ont fait un film sur Birdie Kids, donc le crew de graffeurs et puis bon de street artists, qui dessinent ces petits oiseaux qu'on voit partout à Lyon et alentour. Et donc le 26 février, ils ont lancé leur film en avant-première. Donc c'était à l'UGC Confluence, donc j'en ai profité pour y aller puisque c'était gratuit et puis parce que c'était sympa et puis parce que j'avais envie de voir. Et je viens de dire une énorme, énorme bêtise. C'était le 11 janvier qu'on les a reçus et le 26 février, c'était leur avant-première.
Et on n'a même pas réagi.
Non, mais c'est pas, ce soir, nous ne réagissons plus à la causerie.
En plus, ça me paraissait logique, mais c'est que je ne vois plus le temps passer.
Mais voilà. Donc, le temps passe malgré tout. Non, donc c'était une superbe présentation de ce film-là. Donc il y avait uniquement la partie reportage, parce qu'il faut savoir que c'est un reportage fictionnel. Enfin, le film est un reportage fictionnel avec une partie avant et une partie après, ce qui est strictement le reportage qui sera diffusé dans le film complet et qui est fictionnel. Donc là, on n'avait que les 30 minutes de pur reportage, entre guillemets. Et donc, c'était assez agréable de voir un petit peu les artistes discuter de ce qu'ils faisaient, s'exprimer sur le fait que, en gros, le message qui était passé par le crew, c'était que ce qu'ils faisaient, ça leur plaisait, qu'ils essayaient de rester assez libres et que, de toute manière, si ça ne plaisait pas aux autres, ils s'en foutaient. Donc, ce qui en soi est plutôt noble. Hein. On a un film qui aura pris 2 téra de rush, hein, ce qui est assez énorme en quantité de... d'images, et qui sera plus tard traduit dans les festivals en LSF, donc langue des signes française. Donc il y avait quelque chose qui était vraiment vraiment bien fait, qui va donner des suites assez agréables, mais parce qu'il y a un mais. À la fin du film, un petit panneau, une fois que le générique est passé, tout ça, Birdie Kid ne cautionne plus ce film. Ah bon ? Question. Comment est-ce possible ? Sachant que Nat et Franzi, pour les appeler par leur petit prénom, finalement, c'était bien rapproché du crew, avaient fait ça avec eux, avec leur accord, et puis, les ont quand même suivis pendant un long moment. Presque 3 ans, il me semble. Hein. Donc,
De 2011, il disait. Ouais, plus de 3 ans.
Ça fait plus de 3 ans. Et là, d'un coup, à une semaine de la projection en avant-première, le crew se désolidarise finalement de l'œuvre. Donc, c'est assez étrange. Donc, pourquoi d'ailleurs, le titre, on a pris un coup. Hein, ça ne s'appelle plus Birdie Kid, le docu. Mais drôle d'oiseau. Donc c'est clairement parce que les membres du collectif Birdie Kids ont décidé de retirer leur soutien que le documentaire a changé de nom. Et quand on a demandé j'ai demandé à Nat et Franzi pourquoi ils avaient décidé de se retirer finalement de cette production là, ils ont seulement répondu que ça dégradait leur image.
Tu veux dire le collectif,
a répondu ça, au réalisateur.
Que le documentaire
dégradait l'image du crew. Voilà.
Okay.
Et ce qui est assez étrange, puisque il m'a pas semblé, alors j'ai peut-être raté quelque chose, mais il m'a pas semblé que le documentaire était particulièrement
à charge,
critique
ou
à charge, ou voilà, non, c'était plutôt, c'était même plutôt objectif, enfin on va dire dans le sens où voilà, il n'y a pas d'intervention particulière, il n'y a pas forcément de coupure d'image qui induirait un certain sens.
Ou une voix off qui dirait un truc.
Voilà, non, okay. c'est vraiment très... Donc voilà. Et donc je me suis demandé un petit peu quelle image cela pourrait dégrader. Alors, un début de réponse, c'est que juste après la projection, et donc après cette petite question-là, le maire du 2e arrondissement qui était présent a déclaré « Moi, je les admire d'autant plus après ce film ». Bon, il n'avait pas tout à fait cet accent-là.
Pardon.
Ça, c'est moi. Mais voilà, il a pris sa grande voix et il a dit ça. Et puis, bon, c'est vrai que quelque part, ça soulève la question. Voilà, peut-être que ce qui dégraderait leur image, ça serait que Birdie Kid, bah ouais, finalement, rentre dans le. Dans l'acceptable.
Dans l'art acceptable.
L'art acceptable par la politique de la ville, par. Voilà. Et du coup, se détourne un petit peu du côté, on va dire, du côté.
Underground.
Ouais, voilà, underground, un peu interdit de tout ce qui est street art.
Mais c'est étonnant parce que. Quand on avait reçu Nat et Francie, je n'arrive plus, on l'avait soulevé dans l'émission en disant qu'en fait, ils étaient déjà plus ou moins mieux acceptés que les autres, vu qu'on ne les recouvre pas à Lyon.
Exactement.
En général, même quand quand il y a 8 artistes qui sont côte à côte, il n'y en a qu'un qui reste, c'est eux. On avait déjà fait remarquer ça, donc ce n'est pas nouveau pour eux, je pense, de dire qu'ils sont acceptés, entre guillemets.
Et puis, c'est absolument pas nouveau, parce qu'eux-mêmes le conçoivent, étant donné que certains magasins, certaines galeries, ils ont quand même exposé au Musée des Beaux-Arts. Donc, ils sont reconnus en tant qu'artistes et ils sont socialement acceptés, ils sont même tellement acceptés qu'on va les solliciter. Il y a une aînée dans le public qui a quand même dit si moi j'habite dans le 5e, il y a un mur qui est affreux, si on pouvait contacter Birdie Kids pour venir le redécorer. Donc c'est limite, ils font pas quelque chose pour la ville. De la même manière, quand ils décident de faire une œuvre, même s'ils ont pas l'autorisation légale, souvent ils vont le faire de manière tellement propre et tellement professionnelle qu'on va considérer que voilà. C'est accepté, ils sont pas dans l'illégalité, donc voilà. D'ailleurs, dans le reportage, on les voit en train de repeindre le bol à la guillotière. Et là, ils avaient pas forcément l'autorisation, pourtant on a voilà. Mais apparemment, il y a une image quand même qui est dégradée, donc peut-être que ça peut être ce côté-là finalement qui finissent par refuser. Alors, je pense qu'il y a une question à se poser sur le milieu du street art. Alors, c'est-à-dire, est-ce que finalement, il n'y aurait pas... nous, on fait partie du street art, donc forcément, on est un petit peu... on ne va pas du tout dans le sens du légal, et donc, il ne faut pas qu'on se fasse voir comme ça. Après, il y a aussi... Dans le public, il y a aussi eu une polémique sur leur statut, c'est-à-dire qu'il y a un type qui a un petit peu monopolisé la parole et qui a dit « Mais pourquoi eux, ils ont le droit et pas les autres ?» Alors que Nat et Franzig ont quand même expliqué « Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas plus le droit que les autres. » C'est à part les commandes qu'on leur fait, quand ils décident de faire quelque chose dans la rue, ils n'ont pas plus le droit que les autres. C'est juste que le droit, ils le prennent et que finalement, ils font les choses.
Oui, et que la mairie, par sa non-action, fait penser que c'est un droit supplémentaire que les autres ont, en fait, c'est ça,
voilà.
Quoi, que les Birdie Kids auraient, en fait. Sauf qu'au final, non, en fait, c'est la mairie, au final, qui décide ou non de dégager une œuvre ou pas, quoi. En fait.
Ouais, je suis un peu mitigé parce que je pense qu'ils ont eux-mêmes brouillé leur image. On les a quand même vus sur les galeries Lafayette, dans une commande légale.
Voilà.
Donc à un moment donné, je pense que. Et on en avait aussi parlé dans l'émission, c'est que. Ils ont eux-mêmes brouillé leur image, c'est-à-dire que d'un seul coup, on ne sait plus s'ils sont quel côté du street art ils se placent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils cherchent, et voilà. Et il y a des t-shirts Birdie Kids, et y a tout ça. Donc, il arrive un moment où je crois que même ils n'ont pas eu besoin de ce documentaire, je pense, pour brouiller leur image. Mais c'est un avis personnel.
Absolument pas. Enfin, bah, je partage un petit peu ton avis, surtout dans la mesure où eux-mêmes disent que déjà à partir du moment où ils font ce qu'ils aiment, ce qu'on en pense, ils s'en foutent. Mmh. Donc ce qui est tout à fait honorable. Et puis aussi qu'à partir du moment où ils arrivent à vivre avec ce qu'ils font. C'est quand même pas mal. Donc, d'un autre côté, ils ont fait ce choix-là. Donc, finalement, je vois pas en quoi leur image pourrait être dégradée par un documentaire, un tel documentaire. Est-ce qu'ils seraient gênés vraiment par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de la politique de la ville ou est-ce que. Enfin, voilà. Bref, la question reste ouverte. Par contre, du coup, ça ouvre une autre question, qui va être, qu'est-ce que c'est que le street art ? Est-ce que finalement, eux, on peut encore les considérer comme artistes street art ou est-ce qu'on peut les considérer comme, artistes de galerie, artistes vendeurs ? Et surtout, que devient le street art à Lyon et ailleurs ? Comment on l'utilise ? Voilà, je voudrais revenir sur un événement qui a eu lieu cette semaine, c'est-à-dire la Ninkasi Urban Week, Ninkasi Urban Week, qui est en fait une manifestation sur une semaine de différents pendants du street art, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art graphique, etc. Qui est une manifestation intéressante parce qu'elle permet de rassembler pas mal de crews sur Lyon. Mais qui finalement vise à faire de la publicité pour le Ninkasi. Et comme la plupart de ce qui va être réutilisé du street art va viser à faire de la publicité pour une entreprise qui va cautionner finalement ça, qui va cautionner des œuvres qui avant tout se veulent contestataires, libres, dans l'esprit de l'occupation d'un espace qui à la base n'est pas à eux, dans l'esprit finalement de se montrer sur un espace qui ne leur appartient pas. Donc on est sur la question du street marketing.
C'est un peu, si on peut faire un parallèle, ce qui s'est passé avec les sports extrêmes et Red Bull. C'est-à-dire que Red Bull s'est mis à sponsoriser tous les sports extrêmes parce qu'ils avaient compris que ça allait passer de plus en plus à la télévision et que du coup ça permettait d'avoir de la pub pas chère, quoi. C'est-à-dire vous avez les Red Bull Fly, Red Bull Trekking, machin compagnie, et en fait finalement c'est un peu pareil, c'est comme maintenant vous avez la Ninkasi Street Art, c'est-à-dire c'est un peu comme les bateaux qui font de la voile, c'est Fleury Michon au lieu du nom du bateau.
Non mais c'est exactement ça, c'est utiliser une pratique qui pourrait être alternative, qui est alternative à la base, qui est même militante, et pour en faire finalement un support publicitaire. Donc c'est la question, elle est complètement ouverte. C'est qu'est-ce qu'on met derrière cet art-là, qu'est-ce qu'on met derrière le street art, et surtout comment on l'utilise. Et finalement, est-ce que les artistes qui font ce genre de choses vont accepter ou non? Est-ce qu'ils vont modifier leur image ou chercher à la modifier parce que finalement ils peuvent faire de l'argent avec ce genre d'événement. Donc moi je pense par exemple à un collectif qui s'appelle La Coulure qui a réalisé des performances et des ateliers lors de la Ninkasi Urban Week, qui était jusqu'ici quand même moins connu que Birdie Kid, mais quand même assez présent sur les murs de Lyon, et qui là, finalement va trouver une autre légitimité, un autre espace, finalement, peut-être là aussi abandonner un petit peu le côté contestataire de ce qu'ils font. Donc, pour finir, la culture street art, elle est très très présente à Lyon. C'est quelque chose qui est très visible. Je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui ont pu voir les fresques dans la rue des Tables Claudiennes ou rue Pierre Lemot. Il y a même des sites internet qui finalement proposent des visites de Lyon à partir de ces fresques-là. C'est quelque chose qui est très très présent. C'est pas forcément toujours utilisé, réutilisé par la publicité, mais c'est quand même un art. Donc c'est vu comme tel, c'est moins finalement, c'est très adapté dans la politique de la ville lyonnaise, c'est très très ancré, c'est très accepté. Donc on peut pas dire que le street art lyonnais soit menacé, hein, à proprement parler. Et donc faut reconnaître que c'est rentré dans les esprits comme une forme d'art à part entière. Et forcément ça va mettre en lumière la question de mise sur le marché des œuvres. Et donc de l'exposition de ses œuvres et l'évaluation, donc voilà, quel artiste est meilleur que quel autre artiste, alors que dans un niveau où tous les artistes seraient équivalents et contestataires, ben, on n'aurait pas cette espèce de mesure des uns par rapport aux autres, etc. Donc voilà, c'était un petit peu les questions que je me posais par rapport, bah, notamment qui découlait de ce documentaire qui m'avait beaucoup intéressée, puis un petit peu de tout ce qui se fait dans la ville et alentour. Et au passage, je voulais préciser que Nat et Franzi, par rapport à Birdie Kids, ont essayé de rester le plus neutre et objectif possible. Donc bon, voilà, d'où le fait que je comprenne encore toujours pas pourquoi le crew s'est désolidarisé du reportage. Et finalement, la preuve qu'ils sont restés assez objectifs, et c'est que bah, le reportage montre que bah, l'évolution du street art et de la législation et de la tolérance de ce média-là, finalement, est assez... Et peut-être encore une fois récupéré. C'est voilà. C'est bon. Je ne sais pas si j'étais très claire là-dessus, mais.
Si si.
Voilà. Donc.
T'aurais préféré que le maire du deuxième dise pas, je les adore finalement, par exemple.
Oui, en fait, j'aurais carrément préféré qu'ils disent, voilà, nous, c'est là, donc on l'accepte. Mmh. C'est pas plus mal. C'est joli. C'est des couleurs. C'est, bah, c'est voilà. C'est des idées. C'est des gens qui sont bougés le cul aussi pour faire ce qu'ils font. Parce que c'est pas. Enfin, il y a certains collages, certains graphiques qui sont vraiment pas évidents à mettre en place. Quoi. Enfin, c'est voilà. Les gens prennent de véritables risques, autant physiques que vis-à-vis de la police, pour les mettre en place. Donc il y a un travail derrière, et bon, oui, ils méritent d'être reconnus. Maintenant, de dire voilà, eux ils sont bien, en plus c'est joli, puis ça s'accompagnait un petit peu d'un discours, voilà, ça plaît à tout le monde, jeunes aux vieux, etc., machin, donc l'aspect contestataire, voilà, forcément ça aide pas. Donc bon, moi mon avis sur le street art, c'est que à un moment donné ça devrait être légal, point. C'est-à-dire que laissons les gens, à partir du moment où ils ont la motivation et l'envie, décorer nos murs, parce que nos murs sont gris, sont mornes, sont moches. Et à partir du moment où on peut y mettre un petit peu de couleur, un petit peu d'humour, un petit peu d'idées aussi, qui peuvent faire réfléchir, ben ça peut être intéressant. Voilà, on est toujours dans une société libre d'expression et libre d'art, théoriquement, donc... voilà, je vois pas en quoi c'est mal de peindre sur les murs. Et pour finir, je voulais remercier Nat qui a répondu à mes questions à la fin de la projection, qui m'a permis ici voilà, un petit peu de parler du documentaire. Et puis finalement, j'ai envie de dire, eux, leur documentaire, ils l'ont fait, c'est leur œuvre à eux. Et puisque les autres, ils en pensent,
On s'en fout.
Fuck. Voilà.
Ok. Et d'ailleurs, ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, c'est qu'il devrait y avoir des rediffs aussi du docu.
Oui.
Donc on vous tiendra au courant, parce que moi je ne l'ai pas vu et j'ai bien envie de le voir en fait.
Voilà. Et puis normalement le documentaire est censé passer en festival, donc en version complète. Donc pour les dates, on les aura un petit peu ultérieurement, parce que là j'ai essayé de voir leur manager, entre guillemets, qui m'a dit, bon là on a encore rien, mais c'est promis, on vous tient au courant à la causerie. Et puis Nathalie devrait repasser prochainement pour parler de son propre, d'un projet qu'elle a mené toute seule, qu'elle n'a pas mené avec François.
Voilà. ou avec un autre François, je crois, de mémoire. Voilà. Donc ce sera à voir avec elle.
Mais bien évidemment.
Vous avez vu le teaser qu'on fait pour les futures émissions
de la Croix?
Les gens, ils ont envie de rester, d'attendre et de savoir.
Yes.
J'espère bien.
Musique?
Ouais. Allez, musique. With the positive.
the neighboring nation, craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation, and raising the stakes with a naked sensation. Inspiration, like the wax on the table, insulation, wrapped around a cable. Intonation, treble bassin, devil chasing with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. V equal MC squared, can you hear me? State of mind, funky with the rhymes, I'm positively inclined. I love the racks, got the tracks, that's refined. One of a kind, sit back and recline. And I'm the G-R-E, E to the N. Me with the pen, V for beats and rhymes to increase them. And soul's been sold, slow you roll, don't fold your scroll. And that gold you hold ain't shit if you don't know. Your own motivation, race it to the console. Insert a turn of phrase, last word, loss, it's initiate. Now shit focus,
cloud shit smokers,
loud hip hokers, focus through the dopest and I hope this, quote sets note this, console blows and it's just too much to cope with, the hopeless,
oh shit, now the ropes rip,
over the microphone cord, oh lord,
samurai sword, all aboard, and swarm the stores like some Mongol hordes, cause it's F to the U and K to the Y, the P to the O E T and I fly, the way that we flow on mics is sky high, keeping no seats free and not a single eye dry,
yeah, yeah, a state of mind. Fuck you with the rhymes, I'm positively inclined.
I love the tracks, got the tracks, that's refined.
One of a kind,
sit back and recline.
Development of resting,
yeah, enveloped in the session.
Yeah, yeah, keep it mellow, no aggression.
Making it fresh like a Tribe Called Quest, cause we dwelling on this section.
And if you're swell-headed and stressing,
then leave them fellas in recession.
Fate says go away, yo, come to the show and check the ASM flow.
And now you know,
the state of mind, fuck you with the pounds, I'm positively inclined.
I love the wax, got the tracks, that's refined.
One of a kind,
sit back and recline.
Yeah, that's right,
the state of mind,
fuck you with the pounds, I'm positively inclined.
I love the wax, got the tracks, that's refined.
Space and time,
bends the bass in line.
Eh bien, vous êtes toujours sur la causerie, sur le 102.2 ou alors sur le site de Radio Canu. Et voilà, là, tout de suite, c'était Wex Taylor avec Positively Inclined. Et voilà. Et puis.
Et bah, c'était bien. Bah. Et en fait, on a du mal à se lancer, ça.
Ouais, je.
Et pour continuer dans la notion de street art et de, d'art de rue, de gens qui font du bombage dans des endroits fortement improbables, si tu nous parlais de Banksy.
Ben oui, je vais vous reparler de Banksy, parce que j'arrête pas de parler de ce gars, et, enfin, en tout cas de ce collectif. D'ailleurs, tiens, je le dis que c'est un gars, ça se trouve que justement, j'avais soulevé une fois la question, et si c'était une femme? Comme quoi, on a tous à faire des efforts. Et en fait, bah oui, parce qu'en fait, Banksy, bah, il a fait un petit tour à Gaza. Et en fait, il a, de tout ce trip-là, on va dire, ce road trip, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, de ce voyage, cette expédition artistique, en fait, il en a fait une vidéo très courte, elle doit faire 2 ou 3 minutes. Et en fait, pendant qu'il y a des images qui défilent, où ça va passer d'un avion, en fait, où il nous raconte ça, et c'est vraiment, ça ressemble à une vidéo promotionnelle, en fait, d'un office du tourisme, en fait. Et donc, ça commence dans un avion, et ça continue dans ce qui semble être un tunnel souterrain, en fait, pour arriver, bam, on arrive au milieu des ruines, en fait. Et tout au long de cette vidéo, il y a ce texte, en fait, que je vais vous partager. Cette année, ce sera votre tour de découvrir une nouvelle destination. Bienvenue à Gaza, loin des parcours touristiques. Les habitants l'aiment tellement qu'ils ne la quittent jamais. Ensuite, entre parenthèses, il y a marqué « parce qu'ils n'en ont pas le droit ». Niché dans un cadre exclusif, encore entre parenthèses, entouré d'un mur sur 3 côtés et de bateaux militaires d'un autre. Pour continuer par « surveillé par des voisins amicaux », entre parenthèses, il rajoute « en 2014, l'opération Bordure Protectrice détruit 18 000 maisons ». fermons la parenthèse, les opportunités de développement sont partout. Tout en rajoutant, aucun ciment n'a été autorisé dans la bande de Gaza. Et en terminant par, beaucoup de possibilités de rénovation. Et c'est tout en... Enfin, vous avez ce texte-là, et à côté de ça, vous avez les images de la réalité, effectivement, des ruines, des bombardements, et aussi des œuvres en fait qu'il a fait. Et il a fait trois œuvres en fait, dont une c'est un penseur qui est appelé Bomb Damage, qui est inspiré en fait du penseur de Rodin, mais qui là plutôt qu'avoir le poing fermé, il a plutôt une expression de désolation, j'ai envie de dire en fait. Je sais pas si c'est suffisamment parlant,
la main,
mais
la main sur la tête.
La main sur la tête, presque devant ces ruines, à se demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Il y a aussi un mirador, en fait, mais qui sert de carrousel. Vous savez, ces longs carrousels, enfin, sont hauts, avec des chaînes et des petites balançoires. Et ben voilà. Et des enfants qui sont assis dessus et qui font un tour de carrousel, donc. Et un autre, c'est un chat. Et dans la vague un peu lolcat, pour celles et ceux qui connaissent un peu ces mouvements-là, c'est en fait toutes ces vidéos de chats. Et là, on a un mignon petit chat, vraiment très mignon. Et à propos de ce chat, justement, il y a des journalistes qui ont interrogé un habitant de la ville, qui lui-même en fait expliquait quand cet artiste est venu. En fait, déjà, il est venu et il est reparti. Il a fait son œuvre et il est reparti. Et cet habitant est allé voir cet artiste, il lui a dit. Pourquoi en fait tu fais un chat quoi? Enfin, je sais pas, t'as pas vu où on est ou... Et il dit en fait, je voulais parler de Gaza. Mais si je disais aux gens que c'était les bombes et les ruines, personne n'aurait voulu en parler. Donc j'ai fait un 4. donc j'ai fait un chat parce que au final, les gens courent beaucoup plus vite sur Internet pour voir un lolcat plutôt que de voir des ruines. Donc c'est. Voilà, c'était. Alors, je suis venu sur ce sujet-là parce qu'effectivement, on avait parlé de Birdie Kids. Et que voilà, je trouve que c'est des pendants différents d'artistes. Il ne s'agit pas de catégoriser, etc. Enfin, j'ai effectivement, moi, plus une portée sur ce genre de truc-là parce qu'il y a quelque chose, quand même, de très fort. Enfin, politiquement très fort. Et derrière, en fait, la fin de ce micro-documentaire de 2-3 minutes, il se termine par une autre inscription que Banksy a fait sur un mur. C'est Si nous lavons les mains du conflit entre les puissants et les faibles, nous nous rangeons du côté des puissants. Nous ne restons pas neutres. Et voilà. Enfin, et tout ça, c'est fait en graphe au milieu des ruines et les œuvres là où elles sont positionnées. Enfin, c'est assez fou. Genre le penseur dont je vous parlais, lui, il est positionné en fait sur un restant de mur et autour, c'est que des ruines. Et il y a vraiment, c'est Banksy. Enfin, moi, je enfin voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il a fait. Parce qu'il y a vraiment une approche de l'art qui, je trouve, justement, est très... En tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, j'essaierai de vous mettre le lien du docu sur le blog de la causerie. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir aussi ce qui se fait et dont on parle pas forcément non plus. Donc, voilà, je vais pas en faire 10 ans. Et d'ailleurs, enfin, juste rajouter que Banksy avait déjà fait parler de lui, justement, en Palestine et en Israël. C'est parce qu'il avait dessiné sur le mur de l'apartheid que Israël a construit. Et oui, au final, il a fait des... Enfin, vraiment, c'est plein de poésie, c'est magnifique, vraiment.
Il avait fait notamment quelque chose que Radio Canu lui avait un peu piqué, et on s'excuse, c'était une petite fille qui tenait des ballons, pour passer d'un côté à l'autre du mur, qui s'envolait avec des ballons. Et puis, là, il avait fait un truc qui, moi, m'avait fait mourir de rire, c'était les rois mages qui étaient coincés d'un côté du mur et qui pouvaient pas aller se rendre voir le petit Jésus, parce qu'il y avait le mur, et ils étaient assis comme ça, un petit peu dépités, c'était assez amusant à voir et c'est la preuve d'ailleurs que l'humour cynique un peu à l'anglaise, parce que Banksy fait énormément d'humour noir et d'humour à l'anglaise dans ses œuvres. Moi je trouve que c'est un bon moyen de dénoncer et que c'est vraiment vraiment bien vu, parce que je crois malheureusement qu'il a raison. On n'a jamais autant parlé finalement des ruines et du nombre de maisons détruites à Gaza que depuis que Banksy a mis un lolcat. Et parce que à chaque fois qu'on parle de ce que Banksy a fait, finalement on parle du fait que il y a eu 18 000 maisons détruites, quoi, et qu'il y a toujours pas de ciment qui peut rentrer dans la bande de Gaza. Et je trouve que voilà, c'est finalement, malheureusement, il prouve qu'il avait pas tort. C'est qu'en faisant un chat, il est plus efficace des fois que, il est plus efficace. Il trouve l'angle que les médias attendent, quoi. Et c'est triste que les gens attendent qu'on fasse un chat pour parler de ça.
Voilà. Mais je crois que c'est un personnage ou un collectif de personnages très intelligents et qui ont une analyse assez bonne chose de ce monde. Enfin, et le documentaire d'ailleurs qui avait été fait sur lui, c'est exactement pareil, quoi. Enfin, c'est une démonstration toujours de ce monde dans lequel on vit, de l'absurdité du monde dans lequel on vit, de la violence, etc. Enfin voilà, moi je vous invite vraiment à aller voir ça aussi. Et puis ben, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, sinon on passe.
Musique.
Passe à la musique. Je
sais pas. Déjà comme ça tout de suite. Bah, allez.
Allons-y. Vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu 102.2 ou sur radiocanu.org. Et ben, on arrive à la dernière partie de cette causerie et qui, comme à son habitude quand même, c'est des petits rendez-vous militants ou pas, culturels, etc. Et c'est Jonathan qui va nous donner le premier rendez-vous.
Et ben oui, c'est le 17e printemps des poètes, donc entre le 7 et le 14 mars, donc entre hier et samedi prochain. Excusez-moi pour ne pas parler dans le micro.
L'éloignement.
Et donc le thème, l'insurrection poétique, donc voilà, organisé par l'Espace Pandora, et je vous souhaite à tous d'y aller.
Ok, et ça se passe
Ça se passe un petit peu partout, okay. Dans Lyon. En fait, il faut choper le programme, je pense, sur espacepandora.org.
Ou à Radio Canu, dans le hall d'entrée aussi.
Ou voilà,
et dans d'autres lieux encore.
De Radio Canu, mais surtout chez Radio Canu. et voilà, ça peut être très très intéressant, autant en termes culturels qu'en termes militants.
Mais là aussi, voilà. Ça interroge quand... Le Printemps des Poètes, qui est quand même quelque chose de national lancé par le ministère de la Culture, récupère le mot insurrection. C'était juste une remarque.
Non, si, très bien.
Voilà. Oui, non, mais c'était.
Ah, mais oui, oui.
Bah... Ça n'enlève rien aux œuvres et à ce qui sera présenté.
Non, mais c'est juste
que ça interroge sur la récupération.
Quand des choses qui sont organisées par des choses étatiques ou, voilà. Ou etc. te parlent d'insurrection. Je suis pas sûr que ça soit de la même dont on parle. Mais
une insurrection calme.
Oui, c'est ça, c'est une insurrection.
Une insurrection camomille.
Ok, bon, non, Léon. On va continuer. Eh ben, alors, moi, j'ai un rendez-vous pour vous. Ça se passe à la Bibliothèque Terre des Livres. Ce sera le jeudi 12 mars à 18h. Et c'est une rencontre avec Mohamed Chérif Ferjani, qui est un opposant de gauche... en Tunisie, enfin tunisien, et qui est l'auteur du livre Prison
et liberté, pardon, parcours d'un opposant
de gauche dans la Tunisie contemporaine.
Voilà, et je crois que c'est à 19h, pas à 18h.
Oh, pardon.
C'est ce que moi j'ai noté. Alors allez-y entre 18 et 19h.
Non, c'est que ça doit être 19h alors. J'ai tout copié. J'ai tout copié, vraiment je suis. Voilà. Et ensuite, un autre rendez-vous, c'est le vendredi 13 mars. Ça se passera à la MJC Mon Plaisir à partir de 18h30. Et c'est une conférence, c'est conférence débat avec Philippe Pelletier, le nom de la conférence, pardon, ce sera Anarchisme vent debout, idées reçues sur le mouvement libertaire. Et donc, c'est vendredi 13 mars à 18h30 à la MJC, Mon Plaisir. Et c'est organisé par le groupe Graines d'Anard de la Fédération Anarchiste.
Et suivi d'un apéro.
C'est vrai, c'est écrit sur le truc, je crois. Bah oui, oui, c'est ça, conférence suivie d'un apéro. C'est toujours bon de boire et de manger après avoir discuté, et discuter en même temps.
Eh ben oui.
Eh ben, vas-y, toi.
Le samedi 14 mars, toujours à Terre des Livres. Alors, Terre des Livres, je ne sais plus où c'est. Donc,
je crois que c'est dans le 7e.
C'est à Guillotière, c'est sûr, mais je ne sais plus exactement où c'est. Donc, c'est François Quimaud qui viendra présenter son livre « La colonisation des corps ». Alors, c'est la confrontation avec la vision des corps. Alors, ça va de quelle vision on a du corps en Asie, en Orient, par rapport à ce qu'on a en Occident. Et puis après, c'est une réflexion autour du corps en général et quelle vision on a du corps aujourd'hui au 21e siècle. Voilà, et alors, bah oui, ça ouvre autant de voies que la notion de gestation pour autrui, de tout ce qui va être contraception et autres médecines autour du corps, voilà. Et il essaye de confronter aussi les visions des différentes régions du monde par rapport à ces questionnements-là, okay. Si j'ai tout bien compris à ce que j'ai lu. Mais j'ai pas lu son livre, hein, donc j'ai lu que le résumé. Et puis, bah, si vous voulez pas aller là-bas parce que vous dites que c'est pas bien, puis que je vous ai pas donné l'heure, donc vous savez pas vraiment quand c'est. Et qu'en fait, j'ai oublié de l'écrire, donc vous irez la chercher sur le site de Terre des Livres.
C'est service à moitié vente, en voilà. Fait, ce soir.
Et le samedi 14 aussi, à la Plume Noire, alors là, par contre, c'est à 15h, il y a le film No qui est diffusé. Alors, le film No, ça porte sur le référendum qui avait eu lieu en 1988 face à Pinochet au Chili. Et voilà, parce que suite à la pression internationale, Augusto Pinochet avait été obligé de faire un référendum pour dire si oui ou non il devait rester à la présidence du Chili. Vous vous souvenez bien de la réponse, hein, vu qu'il est resté quelques années encore après. Et c'est la naissance en fait, des mouvements de résistance chiliens et notamment des mouvements anarchistes autour de cette question de référendum. Et notamment la fameuse question, quand on est anarchiste, est-ce qu'on va voter quand il y a un référendum comme ça pour virer un dictateur? Et vous verrez que c'est très intéressant. Donc c'est à 15h, c'est à La Plume Noire et ça c'est rue Diderot dans le premier.
Yes. Voilà. Et j'ai retrouvé pour la Terre des Livres, c'est 86 rue de Marseille dans le 7e arrondissement. Ouais, voilà, je voulais quand même donner l'info. Et puis on peut peut-être terminer sur l'appel à dons de Radio Canu qui continue, qui ne s'arrêtera pas avant quelques mois quand même.
Avant qu'on ait trouvé et acheté un local.
C'est ça. Et donc, comme d'hab, on va quand même vous le rappeler, Radio Canu, c'est sans publicité, sans, je ne sais pas comment dire...
Sans aspartame, avec que du vrai sucre dedans.
Il n'y a pas de pub, c'est que du bénévole, c'est une assoce, Radio Canu, enfin, c'est une association, chaque émission paye une cotisation, voilà, c'est tout fait en do it yourself, on fait tout nous-mêmes, du changement de cuvette des chiottes à refaire un tuyau qui a pété, c'est tout Canu, c'est tous les bénévoles de Canu qui le font. Et ben on a besoin de votre soutien parce que il y a un loyer qui a monté de 25% en un an. C'est pas rien quand même, hein, 25% alors qu'on est une association, hein, nous, il n'y a pas un bénéf qui augmente hein, d'année en année, ça n'existe pas chez nous. Donc voilà, donc l'idée ce serait d'acheter un local. Il y a peut-être une piste sur racheter le local en fait dans lequel on est locataire pour l'instant, mais il n'y a rien de fait parce que à Canu, vu que c'est une association, tout se décide en AG. Donc voilà, en tout cas pour continuer de nous soutenir financièrement, vous pouvez envoyer vos chèques à Radio Canu, boîte postale, BP pardon, 1101 69201 Lyon CEDEX 1. Vous pouvez également faire des dons par virement. Pour ça, je vous conseille d'aller sur le site internet de Radio Canu. Vous trouverez toutes les infos nécessaires. Et puis sinon, vous pouvez aussi Parfait. Vous pouvez aussi passer. J'étais presque parfait hein, sur cette présentation. Il fallait que je foire. Vous pouvez aussi passer les mardis soirs entre 19 et 20 heures. Il y a la prog. Qui, alors, ça, c'est des gens qui reçoivent les gens qui ont envie de faire des émissions et qui viennent déposer leurs maquettes et tout ça. Mais vous pouvez aussi venir et donner vos dons à ce moment-là, parce que c'est un des moments où Radio Canu est ouvert sur tout le monde, en fait. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer. On a aussi des t-shirts sérigraphiés. Je crois qu'on peut aussi les acheter le mardi,
oui,
en fait.
Oui, le mardi aussi.
Et ben voilà. Venez le mardi, en fait. Vous pouvez tout faire le mardi. Ouais. Acheter des t-shirts, déposer des maquettes.
Et je vais préciser, pour répondre à une question qui a été posée 2-3 fois, pour les gens qui ne voudraient pas faire un don, un gros don, un seul mois, vous pouvez tout à fait faire des virements réguliers. Mmh. C'est-à-dire, il suffit de mettre dans le nom du virement, don à Radio Canu, et vous faites un virement de 5, 10, 15, voilà, comme vous voulez, tous les mois, au lieu de faire un gros don en une fois, parce que vous dites, ah oui, mais moi, en une fois, j'y arrive pas. Un peu dans le principe des caisses de solidarité ou autres qui existent, voilà. C'est juste pour dire que ça, c'est aussi possible. Vous prenez le numéro IBAN sur le site de Radio Canu, et vous pouvez faire ça tranquillement avec votre banquier préféré que vous aimez, que vous n'avez pas encore pendu.
Au fusil.
Et donc voilà, que je voulais juste quand même préciser qu'il y a encore des soirées de soutien qui arrivent bientôt. Ça se passe pas forcément sur Lyon, mais justement c'est très bien aussi parce que ça montre bien.
Il y en a une le 20 mars à Hauteville.
C'est ça.
C'est la CNT 01 qui organise ça. Et voilà, on vous en reparlera la semaine prochaine. Mais voilà, c'est une soirée de soutien qui nous est venue comme ça spontanément et on les remercie.
Oui. Voilà, je trouve ça super cool en fait. Non, mais vraiment. Donc voilà, et ben, je crois qu'on peut s'arrêter là.
Ouais.
En tout cas, ce que je voulais rappeler quand même pour l'appel à dons, etc. Allez sur le site de Radio Canu, vraiment, vous allez retrouver l'historique de la radio, un petit peu comment que ça s'est mis en place, parce que Radio Canu c'était aussi une radio pirate, etc. Et je trouve que voilà, c'est, je pense, un média très important. Voilà.
Là, je vais juste signaler qu'il n'y a pas après nous les yeux grands ouverts, ouais. il n'est pas là et que on peut le dire parce qu'il nous l'a dit, qu'il sera là la semaine prochaine.
D'accord. Voilà.
Non mais oui, j'étais okay. Juste pour dire qu'il sera là la semaine prochaine et que donc la semaine prochaine nous ne terminerons pas à 23h10.
C'est ça. Eh ben qu'est-ce qu'on se dit sinon
Ah ok, rien.
Eh ben oui, puis peut-être qu'on se dit avec quoi on se quitte.
Mais oui. Bah,
et toujours dans la veine des Riot Girl, on va se quitter avec The Runaways et Crimson and Clover.
Ouais, c'est un titre que Emma elle a choisi.
Tout à fait.
Et on fait des bisous à Emma, Clara, Nadège. Merci à Guillaume qui est passé.
Mais qui n'a pas beaucoup parlé, mais c'était gentil d'être venu.
Moi, je vous ai écouté, c'est surtout ça.
ça t'a plu la radio?
Oui.
Tu reviendras?
Oui. C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, je sais bien, mais...
C'est vrai.
C'était la première fois.
Et les premières fois, on est toujours un peu timide.
Oui.
Eh bien, on vous souhaite quoi ? Une bonne fin de soirée, une bonne semaine, beaucoup de courage pour la semaine. Et puis, on se dit à la semaine
prochaine.
Oh, c'est horrible !
Prochaine !
Ça faisait un truc de télé, quoi. Oh, pardon.
Et on se dit à la semaine prochaine.
Ouais. C'est horrible. Non,
applaudissements
c'est horrible.
Du public.
Non, arrête.
Et ça, tu peux remplacer Nagui. Hein.
Non, arrête. Et aussi, allez, on continue vite fait, juste pour rappeler qu'il y a aussi cet appel à contribution pour le jingle avant qu'on se quitte.
Ah bah oui.
C'est quand même vachement
enfin, le
important.
Le générique même d'ailleurs. Hein,
oui, le générique, pardon. Ouais. Et vous pouvez envoyer vos idées, vos envies, vos créations.
2 minutes, ce serait bien.
Ouais, 2 minutes, voilà. Pas une de plus, pas une de moins.
Bon, en gros, si vous avez un bon portefeuille ou une âme d'artiste, vous êtes utile. Voilà. Donc,
et puis on
venez.
Peut dire, d'ailleurs, en parlant d'âme d'artiste ou autre, si vous voulez venir présenter des trucs à la causerie, eh ben, n'hésitez pas aussi à vous faire connaître. Et puis, je sais pas s'ils nous écoutent, mais il y a un groupe, on va pas donner leur nom, mais qui nous avait contacté, qu'on a recontacté et qui nous a pas recontacté. Donc, si tu te reconnais, ami du groupe qui est en question... réponds-nous. Voilà.
voilà. Bon, ben, on se quitte vraiment.
Avec les Runaways et.
Crimson et Clover. And Clover.
Eh ben, allez, bonne semaine à toutes et
ciao,
à tous.
Ciao.
jamais rien aux riches qui veulent toujours plus d'argent.